Voilà, je suis content d'être là, en tout cas, de vous retrouver. J'ai perdu la mémoire pour certaines choses, mais je me souviens toujours des beaux paysages dans lesquels j'étais il n'y a pas très longtemps. Mais je suis aussi content de revoir vos beaux visages ce matin et de partager ces instants avec vous. Merci pour vos prières, je sais, plusieurs m'ont dit, on a prié pour vous. Et on a toujours besoin d'être soutenus les uns les autres dans la prière. Et moi aussi, j'ai prié pour vous, pas aussi fidèlement que j'aurais dû, mais voilà, vous étiez aussi sur nos cœurs. Et quand on est en vacances, je disais à un frère, quand on est en vacances, on est un peu en mode artificiel. On est avec des valises, un coup par-ci, un coup par-là. C'est bien, mais c'est pas la vraie vie. Et on est toujours content de revenir parce qu'on retrouve ses repères. Et puis aussi, surtout, on retrouve sa famille. En Christ. Et c'est toujours bien d'être dans la famille, d'être avec le peuple de Dieu. Et c'est ma joie d'être avec vous ce matin. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques versets de l'épître, deuxième épître de Paul aux Philippiens. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, vous savez, les épîtres... je ne sais pas comment vous les considérez, mais elles sont souvent, et ce sont des lettres qui sont adressées à des communautés, parfois à des personnes, et qui sont écrites pour répondre à un besoin souvent pratique. On pourrait penser que le but premier est de faire de l'exposition doctrinale, mais quand vous regardez les épîtres, souvent il y avait une situation particulière dans une église et l'apôtre Paul écrit pour répondre à cette situation. Et la manière de répondre, c'est toujours d'exposer doctrinalement la vérité, parce qu'il n'y a pas de véritable conduite sans doctrine. Il faut une doctrine, et c'est de la doctrine... La saine doctrine que découle la conduite que l'on doit avoir. Donc il faut connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais néanmoins, le but visé est souvent de redresser, de corriger, d'instruire et de donner, d'imprimer en tout cas une conduite chez les chrétiens. Et dans cette seconde épître, Au second chapitre de l'épître aux Philippiens, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 16. Et ce sont surtout quelques versets pratiques qui vont retenir notre attention ici. Le verset 12 et le verset 13. Mais nous lisons à partir du verset 1. Écoutons donc la parole de Dieu. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous conduire par ton esprit dans ta parole et de soumettre nos cœurs pour que nous acceptions ta parole qui est la vérité et que nous obéissions à cette parole. Conduis-nous, éclaire-nous, illumine nos cœurs par ton Esprit Saint, nous t'en prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, c'est un texte, vous allez être d'accord avec moi, très pratique, hein, avec une petite section, les versets 5 jusqu'au verset 11, où l'apôtre parle de Jésus-Christ, de son humiliation, de son humiliation, puis aussi de son exaltation. Hein. Et ça, c'est enchâssé dans un tas de recommandations pratiques. Hein. Juste avant, il dit, c'est une exhortation, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et puis ensuite, il parle de Jésus-Christ. Et puis au verset 12, il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Là, on est entre deux exhortations bien, bien pratiques. Hein. Et certainement, le but de cette exposition de l'humiliation de Christ et de son exaltation, eh bien, c'est de pouvoir guider le peuple philippien, on pourrait dire, de Philippe, en tout cas les chrétiens de l'Église, dans leur conduite, les guider dans la manière de vivre vraiment la vie chrétienne. Les versets 12, je vous ai dit, sont ceux qui vont, et 13, ceux qui vont retenir notre attention ce matin. Je les relis. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et l'exhortation que je propose à votre méditation ce matin, c'est celle-ci. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut. D'autres textes disent « travaillez à votre salut ». C'est quelque chose qui peut paraître étrange pour certaines personnes que l'on soit exhorté à travailler à son salut ou à mettre en œuvre son salut. Et c'est le texte le propose ici comme une obligation de travailler à son salut. Mais je voudrais faire remarquer d'abord que le texte s'adresse pas à tout le monde. L'apôtre Paul dit ainsi, mes bien-aimés. Donc ceux qui sont considérés comme les bien-aimés, ce sont les chrétiens, ceux qui ont reçu Christ, ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui sont au bénéfice du salut. Et c'est à cela qu'il est dit de travailler, de mettre en œuvre leur salut. On pourrait se demander, mais comment est-ce que je peux mettre en œuvre quelque chose que j'ai déjà? C'est un peu la question. Mais vous voyez ici que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Alors bien sûr, il n'est pas question ici de travailler pour obtenir le salut. D'accord? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, travaille, mets en œuvre ton salut. Fais des efforts pour que tu sois sauvé. La Bible est ferme là-dessus, dit que le salut, c'est par grâce au moyen de la foi. Et par la foi seule en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Donc vous ne pouvez, ni vous, ni moi, faire quoi que ce soit pour obtenir le salut. Le salut, c'est le don gratuit de Dieu. Il s'obtient par grâce, la grâce de Dieu, par la foi, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à faire. C'est Christ qui a tout accompli à la croix du calvaire en ce qui concerne le salut. Néanmoins, l'apôtre Paul écrit à ses chrétiens pour les encourager. Et c'est assez surprenant que ce qu'il donne comme exhortation, en tout cas dans cette section, c'est de mettre en œuvre leur salut. Et c'est une obligation ici. Le sens, c'est ici d'amener à accomplissement, d'achever ici leur salut, de travailler pour le, on pourrait presque dire, et voilà, pour le perfectionner dans un certain sens, pratiquement dans la vie de tous les jours. Et c'est une obligation pour tous les chrétiens. Il y a des gens qui pensent que nous ne devrions pas faire des efforts et se servent du verset 13 qui dit « Car Dieu produit en vous le vouloir et le faire ». Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'efforts à faire. D'ailleurs, si vous faites des efforts, ils seront charnels. Et donc, c'est Dieu qui doit, vous devez attendre que Dieu fasse. Et c'est la grâce de Dieu qui œuvre, et c'est Dieu qui va faire. Mais la Bible s'inscrit en faux, je crois, contre cette manière de voir les choses. Elle dit à plusieurs endroits que nous avons des efforts à effectuer. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul dit « Nous efforçons de conserver l'unité par le lien de la paix. Hein. Donc vous efforçant de conserver ici l'unité. Il y a un effort à faire. Vous connaissez bien ce passage 2 Pierre 1 verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Je vais vous le lire. 2 Pierre 1 verset 5 dit ceci. 2 Pierre 1 verset 5. À cause de cela même. Je vais lire depuis le verset 3 parce que c'est bien de voir comment c'est dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ici, hein, les questions de suer, de faire des efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, la patience à la patience, la piété, l'amitié fraternelle à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore là, ici, que ces choses doivent être ajoutées, et cela ne doit pas nous laisser dans une passivité. Le chrétien ne doit pas être un individu passif et stérile, oisif. Il est actif. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit quand il dit que nous devons, aux Philippiens, que vous devez travailler, mettre en œuvre votre salut. Il y a des efforts à faire. L'apôtre Paul lui-même disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il fait des efforts sur sa propre personne et il dit, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même désapprouvé. C'est-à-dire qu'il ne veut pas chuter dans le péché. Et donc, oui, Dieu agit en lui, mais il fait des efforts pour se préserver, pour se maintenir ici. Et toutes les exhortations que Paul, enfin, dans beaucoup d'exhortations que Paul donne, par exemple à Timothée, hein, il parle en ces termes, efforce-toi de te présenter à Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Il dit, exerce-toi à la piété. Et le mot qui est utilisé pour s'exercer, c'est le mot qui a donné le mot gymnastique, faire de la gymnastique, faire du sport, des exercices physiques. Et il dit même, pour expliquer bien ce que c'est, il met en parallèle l'exercice corporel. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Alors, de même qu'on s'exerce pour faire le sport, eh bien, on doit s'exercer à la piété. On doit mettre en œuvre son salut. Ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Et donc, il n'est pas question dans la vie chrétienne, une fois que l'on est au Seigneur, de dire, je suis sauvé, c'est Dieu qui fait tout, je n'ai rien à faire, si les choses ne se produisent pas en moi, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alors, on aime dire cela. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Alors, moi, je suis pas encore parfait, Dieu fait son œuvre, laissons-le faire. C'est pas le message de la Bible. Hein. Le message de la Bible, c'est que vous devez mettre en œuvre votre salut. Vous devez même le faire avec une certaine diligence. On va le voir un peu tout à l'heure. Il y a un auteur qui disait que la grâce n'est pas accordée dans le but de libérer les hommes de leur obligation, mais plutôt dans celui de leur donner un motif encore plus puissant de s'acquitter diligemment et avec davantage de reconnaissance à ses obligations. Et l'une des obligations que l'on a selon ce texte ici, c'est de vraiment travailler à notre salut. Travailler à son salut, ça signifie donc faire des efforts dans les domaines concrets. Ici, si nous regardons le contexte ici, eh bien on voit que les Philippiens avaient quelques petites difficultés ici. Hein. Regardez au chapitre 2, l'apôtre Paul dit, s'il y a donc quelques consolations, s'il y a donc quelques soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il y avait certainement un manque d'unité, un manque de cohésion dans les membres, chez les membres de cette église. Il dit encore plus loin, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il y avait un manque d'humilité et chacun agissait pour son propre compte. Il dit même, verset 4, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà un petit peu quelles étaient les difficultés. Peut-être au verset 14, il dit aussi, on peut avoir encore une idée, il dit ici, faites tout sans murmure ni hésitation. Peut-être qu'il y avait qui faisait des choses, mais... Vous savez comment c'est, parfois on murmure les uns contre les autres, ou on maugrait, et on n'est pas content, ou on hésite à faire les choses, on n'est jamais décis pour les faire. Et donc l'apôtre traite ces sujets d'une manière particulière. Il dit, eh bien, pour progresser dans ces choses, il faut avoir, verset 5, en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il explique ce qui était en Jésus-Christ, et puis il dit, ainsi donc, travaillez à votre salut. Et donc ce qu'il dit, il dit que pour pouvoir progresser dans les différents domaines spécifiques de votre vie chrétienne, vous devez travailler à votre salut. Vous devez mettre en œuvre votre salut. Et vous devez le faire avec diligence ici. Quel domaine de notre vie nous devons travailler pour mettre en œuvre notre salut. Ici, on a vu, hein, c'était la rivalité, le manque d'humilité, l'orgueil, les plaintes, les murmures, etc. Mais pour nous, faut nous poser la question, dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de progresser dans ma sanctification, de mettre en œuvre le salut. Je dis que je suis chrétien, je professe être un chrétien, mais cela doit se manifester, doit se concrétiser par une vie pratique qui démontre qu'il y a cette réalité en moi. Et donc, est-ce que je vis vraiment pour le Seigneur? Qu'en est-il de ma lecture de la parole, par exemple, hein? Qu'en est-il de ma vie de prière, hein? Qu'en est-il de mon témoignage pour Christ? Et on pourrait parler de beaucoup de choses ici, de la communion fraternelle. L'apôtre Paul parle de cette communion, de cette qu'il y a entre chrétiens. Est-ce que voilà, je vis en communion les uns? Est-ce que nous vivons en communion les uns avec les autres? Donc nous pouvons nous poser ici ces questions pour savoir est-ce que nous agissons comme le Seigneur nous le commande ici? Est-ce que nous mettons en œuvre notre salut? C'est une nécessité pour chaque personne qui se réclame être un enfant de Dieu. Le salut, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une philosophie de vie, quelque chose qui plane au-dessus de nous, un état dans lequel nous sommes, et puis voilà, c'est tout. Et puis on attend quelque chose. Non, le salut se traduit, d'après ce texte, par des implications pratiques. et je dois continuellement travailler. C'est un petit peu le sens ici. Il y a ce sens de travailler continuellement. Je dois continuellement faire des efforts pour progresser dans ma sanctification. Continuellement. Et je dois le faire dans les domaines spécifiques. Je dois prier à Dieu qu'il me montre probablement les domaines dans lesquels j'ai besoin de progresser ici. Parfois, on pense que ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux, c'est que les circonstances changent ici. Vous voyez ici, ces chrétiens étaient dans des circonstances particulières. Ils avaient des adversaires à l'extérieur. Regardez au chapitre 1, verset 27. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne, afin que soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans une même âme, combattant, encore une fois, vous voyez le travail ici, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires, ce qui sera pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Ils avaient des adversaires à l'extérieur, probablement, hein, et l'apôtre Paul, à cette époque, n'était pas là. Quand il écrit cet épître, il est dans le fond d'une prison à Rome, hein, et ces chrétiens sont là, et avec des difficultés, probablement, à l'extérieur, des adversaires, des gens qui leur veulent du mal, mais aussi avec des dissensions internes, on l'a vu tout à l'heure, avec des rivalités, avec un manque de communion. Regardez chapitre 4, verset 2, par exemple, il est dit, verset 1 et 2, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément, avec d'autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Vous voyez ici, deux femmes qui avaient travaillé avec l'apôtre Paul, qui avaient travaillé dans une unité, maintenant connaissent des difficultés. Donc il y avait des difficultés quand même dans cette église. Eh bien, l'apôtre Paul ne dit pas, il faut que Évodie aille dans une église et Saint-Tiche dans une autre. Ça va être vite réglé. Il faut que, vous vous mettez avec ceux qui s'entendent bien avec vous. Non, il dit la manière de régler le problème, c'est de travailler à votre salut. C'est de mettre en œuvre votre salut. C'est exactement ce qu'il dit. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voici les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, mettez en œuvre votre salut. Appliquez-vous à ce que les vérités de l'Évangile puisse grandir dans votre vie, que votre piété puisse grandir, que votre humilité puisse grandir, que votre souci des autres puisse grandir, que votre recherche de la communion avec les autres frères puisse grandir. C'est en vous qu'il faut faire le travail. Souvent, quand on a des difficultés, on pense que c'est les autres qu'il faut changer. Mais l'apôtre Paul dit, sinon, c'est votre salut. Et le texte dit votre propre salut. Travaillez à votre propre salut. Chacun est amené à penser à son salut, à ce que Christ a fait pour lui, et à mettre sa vie en règle, en conformité avec ce que Dieu a fait pour lui. Et à grandir dans ces choses. À grandir. C'est toujours moi qui ai besoin de grandir. J'ai toujours besoin de grandir à travers une situation. On a toujours tendance à pointer l'autre du doigt, à pointer l'église, à pointer les dirigeants, à pointer le frère, à pointer la sœur. Mais non. J'ai besoin de grandir dans cette situation pour que mon orgueil, mon égoïsme puisse être extirpé. Donc Dieu nous sauve, oui, mais il nous laisse avec une œuvre de sanctification et il nous laisse responsables de travailler pour que ces choses puissent grandir en nous. Il ne le fera pas. Si vous voulez rester le dimanche matin dans votre lit, Dieu va pas emmener le lit avec vous jusqu'ici, hein. Puis boum, sur le banc. Non, vous resterez au lit. D'accord? Mais si vous dites, le Seigneur m'a sauvé, il fait son œuvre en moi. Je veux me retrouver avec les frères et sœurs pour être avec eux et adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est vous qui devez vous lever, aller sous la douche, etc., etc., prendre la voiture, venir jusqu'ici. C'est vous qui devez fournir cet effort. Dieu nous donne la capacité de la fournir, mais c'est à nous de le fournir effectivement. Dieu nous donne la capacité d'aimer les autres, mais c'est à nous de faire des efforts pour les aimer, de prendre le téléphone, d'appeler, de leur envoyer un verset, de les encourager, de les visiter quand ils sont malades. Ces choses, c'est nous qui devons les faire, c'est nous qui devons les mettre en œuvre. Et c'est une obligation pour chaque chrétien de mettre en œuvre d'une manière spécifique, ici, dans les domaines qui sont là, mais dans bien d'autres domaines, son salut. Deuxièmement, nous voyons la manière de travailler ici à son propre salut. Quand on travaille, il y a plusieurs manières de travailler. On peut travailler salement, il y a des gens qui travaillent avec, qui sont très méticuleux, ici. Puis il y en a d'autres, hein. Voilà. Si c'est fait, c'est fait. Ça n'a pas besoin d'être bien fait. Mais ici, le passage nous indique comment nous devons mettre en œuvre, et l'apôtre Paul indique aux Philippiens comment ils doivent mettre en œuvre leur salut. D'abord, en regardant à Christ. Les versets 5 jusqu'au verset 11 sont une exposition de Jésus-Christ dans son humiliation. L'apôtre Paul présente l'exemple de Christ. Ainsi, au début du passage, regardez verset 12, il dit « Ainsi, mes bien-aimés », le « ainsi » se rattache à tout ce qui est dit avant. Il dit « Voilà ce que Christ a fait, ainsi, eh bien vous devez vous mettre en œuvre votre salut. » Donc, la manière de mettre en œuvre son salut consiste déjà à méditer ce que Christ a fait à travers les Écritures. La mise en œuvre du salut exige que le modèle de Christ soit constamment devant nos yeux. Et l'épître aux Philippiens est appelée, vous savez, l'épître de la joie. On trouve la joie plusieurs fois dans l'épître aux Philippiens. C'est pas long à lire, donc si vous avez du temps cet après-midi, eh bien, lisez-la d'une traite. Vous allez voir plusieurs fois. Je vous donne juste quelques passages. Chapitre 1, versets 4 et 5, déjà, regardez. L'apôtre Paul dit, chapitre 1, versets 4 et 5, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu du souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières de prier pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Chapitre 3, par exemple, chapitre 3, verset 17, il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards... » Non, pardon, je me suis trompé. C'était pas chapitre 3, verset 17, c'était... chapitre 2, pardon, verset 17. Il dit, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, hein, et je me réjouis avec vous tous. » Verset 18, « Vous aussi, réjouissez-vous et de même, et réjouissez-vous avec moi. » Chapitre 4, verset 1, par exemple, il dit « C'est pourquoi, bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie. » Ici, chapitre 4, verset 4, il exhorte, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Je vais juste rappeler que l'apôtre Paul écrit ces choses quand il est en train de croupir dans une prison en attendant son exécution. Et où tous, presque tous, l'avaient abandonné. C'est ce qu'il écrit à Timothée, hein, quand il écrit, je vais vous lire dans, parce que je l'ai, oui, 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 et 17, ici, 2 Timothée 1, 15 et 17, il dit ceci, il dit, que tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Et c'est un apôtre qui est, si vous regardez la fin du livre des Actes, il dit que les gens sont venus le voir, mais après ils sont repartis. Il est presque tout seul avec tous ceux qu'il a connus, hein, dans sa prison. Et il écrit une telle épître. Pourquoi est-ce qu'il est capable d'écrire une telle chose? Eh bien, c'est parce qu'il avait l'esprit saturé de la personne de Christ. Si vous lisez le chapitre 3, vous comprenez ce qu'il dit sur Jésus-Christ. Et plusieurs fois, il fait référence à Jésus-Christ dans cette épître. Chapitre 3, verset 8 et suivant, on ne va pas les lire tous, mais il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tous. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'était un homme qui était pétri de Christ, de sa personne, de son œuvre. Et c'est pour cela qu'il fait, je pense, la même chose avec les Philippiens. Il leur expose l'œuvre de Jésus-Christ, l'humilité de Jésus-Christ, l'abnégation de Jésus-Christ. Et c'est parce que Christ remplit sa vie qu'il est capable de se réjouir même dans des circonstances difficiles dans lesquelles il se trouve. Et il dit aux Philippiens, ce n'est pas le changement des circonstances qui vont changer quelque chose dans votre vie. C'est le fait que vous œuvriez, que vous mettiez en œuvre votre salut en contemplant Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous tous qui contemplons à visage découvert le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 18. Le progrès dans la sanctification est lié à la méditation de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures. C'est pour cela que la mise en œuvre du salut passe par l'étude de la parole de Dieu et surtout découvrir Christ à travers la parole de Dieu, méditer sur son caractère, sur sa personne, sur son œuvre. C'est tout un chantier, chers frères et sœurs. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Et c'est ainsi que nous pouvons mettre en œuvre notre salut. Deuxième manière, on pourrait dire, l'apôtre Paul le dit dans ce verset, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une peur bleue et trembler comme une feuille de papier lorsque l'on veut travailler à notre sanctification? Cette expression se retrouve ailleurs dans l'Écriture, dans le psaume 2, verset 11, il est dit « Servez l'Éternel avec crainte » et réjouissez-vous avec tremblement. Et on comprend là qu'il ne s'agit pas vraiment d'avoir les genoux qui jouent les castagnettes. Hein. C'est pas du tout cela. L'apôtre Paul parle à Tite, parle de Tite à l'église de Corinthe et il dit que Tite éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Il dit que l'église de Corinthe avait accueilli Tite avec crainte et tremblement. Et on comprend ici qu'il s'agit certainement d'un respect, d'une attitude qui montre un respect, un honneur particulier. Et donc, la crainte d'offenser Dieu, la crainte de faire mal, oui, mais pas la peur. Hein. Et donc, c'est avec cette attitude que l'on doit travailler à notre salut. La crainte de prendre le chemin de travers. La crainte de ne pas honorer Dieu tel qu'il doit l'être. Vous vous rappelez du livre de Malachie, hein, lorsque Dieu parlait de ses serviteurs, il parlait de Lévi, hein, il parlait de la sacrificature de Lévi, et il disait qu'il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. Il parle de l'honneur que lui ont rendu les Lévites dans leur sacrificature. Et donc Paul dit ainsi aux Philippiens que c'est dans cette attitude qu'il faut mettre en œuvre son salut. Il faut mettre en œuvre son salut dans une attitude de respect, pas de légèreté. Parfois on s'approche de Dieu avec légèreté. Je disais que dans le temps, les chrétiens étaient vraiment très très stricts, hein, tellement stricts qu'il y en a qui ont donné à certains le nom de méthodistes. Il y avait la méthode dans la manière de faire les choses. Et puis on a assisté à un mouvement de balanciers. Hein. C'était parfois certains ont certainement exagéré dans comme les pharisiens d'ailleurs, hein, dans les détails, dans les règles. Alors on est passé de l'autre côté. Et maintenant, voilà, on est très dilettante. Hein. On est, on s'approche de Dieu, mais à la légère. On ne l'honore pas vraiment. On honore, comme l'épître de Malachie le disait, plus le patron, le gouverneur, parfois que Dieu. On ne se permet pas d'arriver en retard au travail, mais on arrive au retard au culte, par exemple. Hein. Donc voilà, il y a des choses qui montrent que on n'a pas cette révérence que l'on devrait avoir pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit ici que la manière avec laquelle nous devons œuvrer à notre salut, c'est de montrer cette révérence pour Dieu, ce respect, cette absence de légèreté, ce sérieux dans ce que l'on fait. On est concentré, on est sérieux sur ce que l'on fait. Et on le fait avec beaucoup de respect. Donc posons-nous la question, chers frères et sœurs, de la manière avec laquelle nous œuvrons dans notre vie chrétienne. La crainte et le tremblement caractérisent-ils notre attitude, nos habitudes, notre culte, notre manière de nous adresser à Dieu, nos relations les uns avec les autres. Et demandons au Seigneur vraiment de nous révéler nos légèretés, puis corrigeons-les avec l'aide de l'Esprit Saint. Que Dieu nous aide vraiment dans ce sens. Troisième manière ici que l'apôtre soulève, je veux dire, c'est la fidélité. Donc, la méditation de l'exemple de Christ à travers les Écritures, la crainte, le tremblement, le respect, l'absence de légèreté, le sérieux dans ce que l'on fait, mais aussi la fidélité. Regardez, il dit non seulement comme en ma présence, verset 12, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc il y a ici, de la part de l'apôtre, il indique à ces Philippiens que oui, vous devez mettre en œuvre votre salut, mais attention, il faut le faire avec fidélité. Il doit avoir une continuité dans ce que vous faites. Vous savez, l'apôtre Paul était en prison à cette époque quand il écrit cela, et c'était un enseignant, un bon enseignant, un érudit, un homme très spirituel, et c'était certainement agréable de l'avoir à côté. Et c'est toujours facile d'avoir c'est toujours stimulant, en tout cas, d'avoir des gens comme cela à nos côtés. Et on recherche, et c'est bien de rechercher la compagnie de frères et sœurs spirituels qui peuvent nous encourager. Et là, il se trouve que l'un des responsables les plus éminents est en prison, prêt à être exécuté. Et l'apôtre leur écrit, et probablement, je ne sais pas, on peut imaginer que ces chrétiens auraient pu dire, mais si seulement tu étais là, toutes ces choses, des difficultés qu'on a dans l'église, on ne les connaîtrait pas, on marcherait mieux. L'apôtre Paul dit, vous devez travailler à votre salut, non seulement quand je suis présent, mais encore plus quand je suis absent. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait un frère qui est vraiment, il était un frère de Ghana. Il aimait le Seigneur de tout son cœur et il était très entraînant. Il était avec les autres et puis très serviable avec les frères, toujours disposé à faire quelque chose. Il avait pris sous son aile un plus jeune que lui. Et puis, à bout d'un moment, il est parti en vacances quelques semaines chez lui au Ghana, et nous sommes allés avec un autre frère, nous étions diacres dans l'église, aller visiter ce jeune. Parce qu'il n'était pas là depuis 2-3 semaines. Et on a dit, mais frère, on t'a pas vu depuis 2-3 semaines. Et le frère qui le suivait s'appelait Ramsès. Hein, et il nous a répondu, Ramsès est absent. Non, c'est pas comme cela que tu dois comprendre, que tu dois vivre la vie chrétienne. C'est vrai, ça peut être attristant, c'est une affection qui existait entre les deux. Mais sa manière de dire la chose a montré qu'il était probablement trop attaché à la personne de ce frère. Et parfois ici, c'est un petit peu la même chose. L'apôtre Paul dit ne faites pas seulement ces efforts quand je suis présent. Faites-les surtout quand je suis absent, parce que votre fidélité se montrera non pas quand je suis présent, mais quand je suis absent. Et c'est quand il y a absence que l'on remarque la véritable, que l'on voit la véritable fidélité. Un peu plus tôt, l'apôtre Paul l'avait déjà dit, regardez au chapitre 1, verset 27 que nous avons lu, il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. » Donc la fidélité dans la mise en œuvre du salut, elle ne doit pas dépendre des personnes, de la présence ou de l'absence des personnes. Et parfois on a des églises comme ça qui vivent au gré de la présence ou de l'absence de leur pasteur. Le pasteur est là, ils sont là, le pasteur n'est pas là, et bien ils sont moins là. Et ce n'est pas ainsi que l'on doit vivre, mais on doit être fidèle, quelles que soient les circonstances. quelles que soient les personnes présentes ou les personnes qui ne sont pas présentes. Et je vous ferai remarquer, chers frères et sœurs, que dans les paraboles de Jésus, lorsqu'il parle de la fidélité, il y a toujours cette, vous avez remarqué cette idée qu'il y a un maître qui est parti pour un voyage. Et puis qui laisse ses serviteurs avec un certain nombre de tâches. Et puis, parfois il est même dit, pour un voyage lointain. Et puis le texte ajoute, longtemps après, le maître revient. Et la fidélité est jugée, non pas sur le temps où le maître était présent, mais sur la période d'absence du maître. C'est dans l'absence de situation confortable que l'on mesure la vraie fidélité. Et le travail de notre foi, l'exercice, la mise en œuvre de notre salut doit être mené fidèlement. Qu'il y ait des yeux pour nous regarder ou qu'il n'y ait pas des yeux pour nous regarder. Que nous soyons dans une grande assemblée ou dans une petite assemblée, on doit être fidèle pour dans la mise en œuvre de notre salut. Donc ici, la manière de mettre en œuvre son salut en regardant la personne de Christ, en méditant la personne de Christ, en montrant du respect, l'honneur pour le nom de Dieu dans ces choses, et puis en le faisant avec beaucoup de fidélité, je veux dire avec c'est beaucoup de persévérance. C'est Spurgeon qui disait que la persévérance est la cible de tous les ennemis, de tous mes ennemis spirituels. Je veux dire que voilà, si on peut flancher ne serait-ce qu'un instant et ne pas avoir de la fidélité dans notre marche, eh bien l'ennemi est content. Faire chuter notre persévérance. On pourrait citer aussi l'exemple de beaucoup d'exemples de Daniel qui était loin à Babylone et puis à qui on interdit de prier. La Bible dit qu'il continue à le faire comme auparavant. Il y avait une fidélité, même loin de chez lui, même en l'absence du confort familial. Et puis troisièmement, chers frères et sœurs, bien, on voit aussi dans ce texte les raisons pour travailler à son propre salut. Paul donne aux Philippiens quelques raisons, une raison en tout cas pour les encourager. Il dit, car, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu est à l'œuvre intérieurement, ce que l'apôtre Paul montre ici. Il place cette vérité devant les yeux. Dieu est à l'œuvre en vous. Dieu opère en vous. Dieu agit en vous. Parfois, on est découragé. On dit, je n'y arrive pas. Je veux bien, mais... Et l'apôtre Paul dit, n'oubliez pas que Dieu, si vous êtes un chrétien, vous êtes sauvé. Dieu agit en vous. Je ne sais pas si on peut mesurer le poids de ce que ça veut dire. Dieu agit en vous. Vous avez déjà vu Dieu échouer dans ce qu'il fait? Moi, j'échoue souvent. Mais Dieu n'échoue pas dans ce qu'il fait. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Et l'apôtre Paul dit, car c'est Dieu, faites-le, mettez en œuvre votre salut, parce que c'est Dieu qui le fait, parce que c'est Dieu qui agit ici en vous. Et donc il les encourage à briller, on pourrait dire extérieurement, en leur faisant prendre conscience qu'il y a en eux quelque chose qui se passe intérieurement et que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il dit qu'il est à l'œuvre ici, regardez, pour produire quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est impossible de vouloir les choses de Dieu et d'y œuvrer à moins que Dieu ne soit premièrement en train de les produire dans le cœur. C'est Dieu qui agit sur notre volonté, qui la façonne pour que nous puissions vouloir les choses de Dieu et qui agit pour que nous soyons capables d'obéir aux choses de Dieu. Jamais l'homme naturel ne cherche Dieu. Jamais la volonté de l'homme naturel ne se dirige vers Dieu. Il faut que Dieu soit initialement à l'œuvre. Alors, ça sert à rien de dire aux gens, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Dieu. Prions que Dieu les touche, afin qu'ils se tournent vers Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi, et personne, d'accord, ne vient à moi si le Père ne l'attire. Prions pour que le Père attire, pour qu'il touche les cœurs, afin que les cœurs, la volonté, puissent se soumettre à la volonté de Dieu. Et surtout ce verset très encourageant qui dit, vous pouvez travailler à votre salut parce que Dieu est en train de œuvrer en vous pour produire le vouloir et le faire. Et vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous ne pouvez pas le vouloir vous-même. Mais Dieu est là et il est en train d'initier ces choses dans votre cœur. C'est ce que exprime Ézéchiel, si vous vous rappelez, quand il parle de la nouvelle alliance de la part de Dieu, il dit, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, écoutez cela, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Il ajoute, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit, je vais vous donner un cœur, je vais mettre mon esprit en vous, et je vais faire en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous pratiquiez mes lois. Vous voyez, il va mettre la volonté et le vouloir. Mais néanmoins, il nous demande de faire et de vouloir. De vouloir et de faire. Il le fait en nous. Et c'est parce qu'il le fait en nous qu'il nous rend capables de le faire dans tous les détails de notre vie. Dieu agit depuis l'intérieur, on pourrait dire, pour influer sur la pratique extérieure. Et le découragement que nous avons parfois vient souvent du fait que nous nous croyons capables de faire les choses par nous-mêmes, ou de nous débarrasser de nos péchés par nous-mêmes. Et ici, la Bible dit bien que le vouloir et le faire sont initiés par Dieu dans le cœur. C'est l'œuvre que Dieu fait dans les cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 5 dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Notre capacité à faire les choses vient de Dieu. Cela doit nous encourager à œuvrer dans notre salut, sachant que Dieu qui ne perd jamais et qui fait toutes choses parfaitement, œuvre en nous pour produire le vouloir et le faire. Et puis, je veux dire aussi que donc Dieu agit intérieurement pour produire le vouloir et le faire, mais Dieu est à l'œuvre avec efficacité. Le verbe qui est traduit par « produit », c'est le verbe, c'est un verbe qui vient d'un mot qui veut dire, bon, ça veut dire énergie un peu, mais il dérive encore d'un mot qui veut dire efficace. Et l'idée ici, c'est que Dieu agit avec efficacité. Son travail est effectif. Et quand vous dites que quelque chose est effectif, c'est que le résultat, il y a une réalité du travail, que le résultat sera amené à perfection ici. Donc dans la version Martin, par exemple, ce verset, ce sens est dans la traduction, il dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir et l'exécution de son bon plaisir. » Par conséquent, en disant « Dieu produit en vous le vouloir et le faire », Paul évoque l'efficacité de cette action. Et cela doit nous encourager. C'est pas oui, Dieu est en train de travailler en vous, et puis on verra s'il y arrive. Non, il y arrivera certainement. Son travail est un travail efficace. Son travail est un travail efficace. Et l'apôtre Paul disait, c'est même Philippiens un peu plus tôt, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et je trouve que c'est extrêmement rassurant. Et c'est extrêmement rassurant. Par conséquent, si nous ne travaillons pas comme nous devons travailler, eh bien Dieu va agir pour nous faire les choses. Il a des moyens d'intervenir pour que nous puissions œuvrer comme nous devrions œuvrer dans la mise en œuvre de notre salut. Il y a un exemple dans la Bible. Vous vous rappelez lorsque l'apôtre Paul était sur le bateau et que le bateau a fait naufrage dans Actes chapitre 27. Et nous pouvons regarder ça très rapidement, ici, Actes chapitre 27. Actes chapitre 27, ici. Et Paul se trouve donc sur le bateau, il y a une tempête, les gens n'ont pas voulu l'écouter, ils sont quand même partis, et au verset... je n'ai pas bien noté le verset où Paul parle de ce que Dieu lui a dit 31, un peu avant. Donc il dit au verset 22, par exemple, il dit, mais je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu ne ment pas. L'apôtre Paul sait que Dieu fera ce qu'il a dit. Mais regardez au verset 31. La page verset 31. Verset 30. Comme les matelots cherchaient à échapper du navire, ils mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Quelque chose de presque contradictoire. Il dit que Dieu m'a dit qu'il n'y aura de perte que celle du navire. Personne ne périra. Vous ne périrez point. Il faut rester dans le navire. Mais il dit, si vous ne restez pas dans le navire, vous périrez. Il dit, Dieu est à l'œuvre pour agir dans nos cœurs. Mais si nous ne pratiquons pas la mise en œuvre du salut, nous périrons. Ce sera peut-être le signe que le salut n'était pas là. Il dit que Dieu dit ce qu'il va faire. Il fait ce qu'il dit. Et vous voyez, et ça s'est passé comme Dieu avait dit. Il n'y a pas eu de perte. Parce que ces hommes ont mis en œuvre le salut. Comment l'ont-ils mis en œuvre ? Ils s'apprêtaient à faire quelque chose qui était contraire à ce salut, à mettre les bateaux à la mer pour s'échapper. Eh bien, les soldats, ils ont coupé pour que personne ne puisse s'évader. Ils ont mis en œuvre le salut. Dieu dit, je vais vous sauver. Et s'il voit quelque chose qui va dans le sens contraire de ce qu'il a dit, il court. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Il dit, vous êtes sauvés, mettez en œuvre votre salut. Si nous voyons dans nos vies des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit réaliser dans notre vie, nous devons couper court, nous devons nous détourner de ce chemin-là. Dieu œuvre efficacement pour que nous puissions mettre en œuvre aussi efficacement notre salut. J'espère que j'ai pu expliquer ça assez clairement. Et puis, dernièrement, je voudrais dire aussi que Dieu œuvre selon un dessein bienveillant. C'est pas au petit bonheur la chance, il dit, il le fait selon son bon plaisir. Notre texte dit selon son dessein bienveillant. Cela doit nous encourager à mettre en œuvre notre salut. Car c'est Dieu qui produit en nous, chers frères et sœurs, le vouloir et le faire. Alors nous devons diligenter, nous devons demander à Dieu de nous montrer tout ce qui, dans notre vie, est contraire à la profession du salut. Et nous devons passer notre temps, non pas à mettre en œuvre notre beauté corporelle, physique, même s'il faut un petit peu de ça quand même, mais à mettre en œuvre notre salut. C'est une responsabilité que Dieu laisse ici à ses enfants. Je termine en conclusion en disant que le salut est l'œuvre de Dieu d'un bout à l'autre. L'homme ne peut rien faire pour se sauver lui-même. C'est par grâce que l'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et donc, si dans cette salle, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, permettez-moi de vous dire que la Bible dit que vous êtes perdus et que vous demeurez sous la condamnation de Dieu, et sous la colère de Dieu. Mais vous pouvez aujourd'hui même vous tourner vers Dieu en vous repentant, en croyant à la bonne nouvelle, en croyant en Jésus-Christ, en plaçant votre confiance en Jésus-Christ, en vous repentant de vos péchés. Et puis, le salut implique une vie pratique d'efforts et de lutte contre le péché, ce qu'on appelle la sanctification. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons passifs, mais que nous soyons actifs dans la lutte contre tout ce qui est contraire à sa volonté. Il produit en nous le vouloir et le faire, mais c'est à nous de mettre en œuvre le vouloir et le faire dans notre vie de tous les jours. L'apôtre Pierre disait, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous. C'est-à-dire que le salut a une implication pratique. Le salut a une implication pratique. C'est par la pratique du salut que j'acquiers l'assurance de mon salut. Pas par une décision, une prière. Dans la plupart des cas, chers frères et sœurs, la solution à nos difficultés ne se trouve non pas dans l'amélioration de nos conditions, de nos circonstances, mais dans notre progrès, dans la mise en œuvre de notre salut. L'apôtre Pierre, Paul le montre ici, la situation n'a pas changé. Ce qui a, au contraire, la mise en œuvre de notre salut tend à modifier, à arranger les situations et régler les problèmes. Et puis la méditation des vérités concernant l'œuvre continuelle et puissante de Dieu dans notre vie sont de puissants encouragements pour nous. Il faut connaître ces vérités et savoir que Dieu est à l'œuvre. Parce que Dieu est à l'œuvre, il produit cela en nous. Alors, mettons-le ici en œuvre dans notre vie. Dieu est préoccupé par mon progrès spirituel. Dieu est préoccupé par votre progrès spirituel. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole et pour l'encouragement que tu nous donnes. Et je te prie vraiment pour que tu, par ton esprit, tu touches les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Et que par ton esprit aussi, tu appliques ces vérités dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen.